Le podcast La Chamane est un espace de réflexion libre qui jette un regard hors du commun sur des sujets et des problématiques de tous les jours. Médiumnité, chamanisme, psychologie, neurosciences, intuition, santé holistique et j'en passe. Je suis Amy Gale, votre chamane qui décortique avec vous de nombreux sujets qui ont un impact profond sur nos vies. Toujours avec comme mission la croissance spirituelle et l'épanouissement de chacun. Bonjour et bienvenue. C'est déjà le 13e épisode de La Chamane. Comme je vous dis à chaque fois, j'en reviens jamais d'avoir un épisode de plus dans la liste. Et bon, déjà pour cet épisode-ci, j'ai eu une bonne difficulté, je vous dirais, à me brancher sur un thème. C'est pas le choix de thème qui manque. En fait, j'ai toujours plusieurs idées et j'ai une liste qui commence à être assez grande de possibilités de thèmes. Peut-être, je l'ai déjà mentionné, mais une chose qui est très importante dans ma vision, de manière générale, en fait, de la vie, c'est que quand on fait quelque chose, il faut le faire à partir d'un état créatif, d'une intuition. Il faut sentir un élan. Et cet élan-là, on l'appelle le flow, en fait. F-L-O-W, en anglais. Et c'est un état, en fait, je dirais presque un état second. C'est un état différent de celui où on est en train de vouloir tellement avec notre mental avoir une idée, de vouloir tellement fonctionner, avoir la meilleure pensée possible, se surpasser, où on essaie de trouver les mots, mais qu'il n'y a rien qui vient finalement. Et on essaie tellement, comment dire, on se crispe tellement qu'on crispe notre créativité, on crispe nos idées. Alors il n'y a plus rien qui sort. Et c'est sûr que parfois, quand je termine un épisode, je suis déjà partie dans l'idée du prochain et parfois, je suis dans l'espèce de pression de me dire « Oh non, mais là, j'en ai encore une autre affaire la semaine prochaine. » Et si j'embarque là-dedans, mais c'est dans mon cerveau que j'embarque. Je vous dis ça parce que ça vaut pour vous tous, pour nous tous. Chaque fois qu'on veut faire quelque chose dans une inspiration, en ayant du plaisir, il faut laisser aller ce mental-là et juste s'exercer de plus en plus à être bien. Et à ce moment-là, en fait, ce qui vient de nous coule. Ce qu'on fait, ce qu'on pense, ça coule. Et ça peut être difficile pour quelqu'un qui commence, qui n'a jamais fait ça, d'être dans le flow. Mais c'est sûr que ça vous est arrivé. Quand vous jouiez, par exemple, quand vous étiez enfant, vous étiez rendu dans une aventure imaginaire. Pour les artistes, par contre, quand on est artiste, souvent, on va connaître justement ces deux états-là. Cet état-là où on lutte pour obtenir un résultat, pour créer quelque chose de fantastique, mais où on n'est pas du tout dans le plaisir, on n'est pas du tout en train de se laisser aller dans l'inspiration, dans la créativité. Et la créativité, ça coule. C'est pas quelque chose qui se contrôle. Donc, j'étais là-dedans et trouver un sujet n'a pas été simple. Mais finalement, il y a quelques petites choses qui me sont poussées dans la tête. Je vais vous parler un petit peu de ce qui s'en vient pour moi et aussi, en premier lieu, en fait, d'une réflexion que j'ai eue hier. J'étais en train de faire du shadow work, dont je vais vous parler encore et encore. En fait, il s'agit quand on sent qu'on a une pensée, un état qu'on juge négatif, en fait, qui est lourd, qui ne paraît pas constructif, donc une pensée qui est un peu destructrice, qui va aller affecter notre état aussi. On profite moins du moment présent, on est juste en train de ruminer, en fait, et on se sent pas bien, on devient grognon. Mais c'est souvent l'indice que ça sert à rien de refouler cette pensée-là, parce qu'il y a quelque chose derrière, à la racine, qui se cache, qui est une blessure profonde, ou tout simplement une expression qui a besoin de se faire, des mots qui ont besoin de sortir. Donc le shadow work, en fait, c'est d'aller voir justement dans ces zones d'ombre-là, à l'intérieur de soi, et je vous en ai déjà parlé, pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas écouté d'autres épisodes, j'ai jamais fait un épisode précisément là-dessus. Et ce ne sera pas celui-ci, mais je suis en train de travailler là-dessus pour vraiment pouvoir vous présenter comment on fait du shadow work, des techniques ou qu'est-ce que ça a de bénéfique en fait. Mais je peux vous dire déjà que ça permet, quand on le fait bien, de se libérer. Alors plutôt que d'avoir à courir constamment contre ou pour fuir une douleur, d'essayer de l'enfouir sous une pile de pensées positives, mais qui ne sont pas complètement ancrées en nous et ressenties, puisque la douleur demeure en dessous de ces pensées-là. Moi, je le vois un peu comme une roche, en fait. Une roche va faire de l'ombre. Une roche, c'est, ça prend de la place. Imaginez une roche dans un engrenage. Il faut enlever cette roche-là Dans le shadow work, pour enlever une roche, il faut la comprendre. Il faut voir la taille de la roche, il faut voir qu'est-ce qu'elle exprime, quels sont les mémoires, les souvenirs qui ont fait que cette roche-là est apparue. Et quelles sont les émotions qui ont été associées à ça, les traumatismes, les blessures qui ont été créées suite à l'apparition d'un événement. Alors, la roche dans l'engrenage, c'est un peu comme la blessure qui n'aurait jamais cicatrisé complètement finalement. J'avais cette semaine l'image, une plaie sur le corps va prendre quelques jours, quelques semaines, quelques mois à guérir, dépendamment de son ampleur. Une plaie dans la psyché, dans l'émotion, il y en a plusieurs en général qui ne vont pas guérir d'elle-même. Alors une plaie physique, la plupart du temps, on désinfecte, on soigne, ou même on fait rien parfois quand c'est bénin, et ça part tout seul. Mais au niveau de la psyché, on peut pas laisser une plaie là et croire qu'on a juste à faire comme si elle n'était pas là, parce qu'elle va affecter tous nos comportements de façon inconsciente. Alors, j'étais en train de faire du shadow work. Je le faisais par rapport à l'image de la femme belle, du corps en fait. Et bon, il y avait toutes sortes de raisonnements par rapport à ça, mais ce que j'avais envie de vous partager en fait, c'est que c'est capital d'aimer son corps. Et la semaine passée, je vous ai parlé d'amour de soi, d'amour propre, mais c'est un peu la continuité de ça en fait. Alors c'est drôle parce que c'est un sujet qui est super important, qui est une base, mais en même temps c'est un sujet qui peut paraître très superficiel. Et la deuxième vision est plutôt tragique, je dois dire. Parce que l'amour du corps, on a tendance à croire que si on vénère trop le corps, on laisse de côté nos autres dimensions en fait. Donc si on prend la vision holistique, global d'un être humain. On a le corps, oui. On a le mental, la tête. On a le cœur qui est les émotions. Et on a l'esprit qui est l'âme. Quand on tombe dans la spiritualité, on a plus envie de nourrir le cœur et l'esprit. On a envie souvent de délaisser le mental et on se dit que le corps est tout simplement une distraction. Heureusement, il y a des pratiques, des disciplines comme le yoga qui intègrent tout ça. Donc, qui vont faire du bien, qui vont aller apaiser le mental, qui vont aussi aller apaiser les émotions, qui vont faire travailler le corps et apaiser les tensions du corps, qui vont nous faire habiter notre corps, et qui vont aussi faire du bien à l'esprit parce qu'ils vont nous connecter à notre âme, à notre esprit. Donc, c'est une discipline qui est très complète et qui respecte le corps. Mais quand même, on sait qu'on a juste à regarder en fait autour de nous. La santé physique des gens, en général, de l'humanité en général, pour s'apercevoir que très peu de personnes prennent soin de leur corps. Alors, s'aimer, c'est d'abord s'accepter tel qu'on est, accepter toutes les facettes de soi. Et si on accepte tout sauf notre corps, ou on accepte notre corps mais on n'accepte pas nos blessures, bien, à ce moment-là, on ne peut pas entrer dans un espace d'amour inconditionnel et on ne peut pas avancer en étant en paix. Donc à partir du moment où on veut réellement progresser, ça demande d'accepter toutes ces parties-là. Accepter son corps, ça ne veut pas dire nécessairement se regarder dans le miroir et dire « Waouh, je suis tellement beau, je suis tellement belle » sans le penser. On va toujours avoir des parties de nous qu'on accepte moins, dont on est moins fier peut-être. Par contre, juste, je dis on les accepte moins, mais en fait c'est justement ça qui est important. On ne va pas nécessairement les aimer et en être fier, mais il faut les accepter. Parce que si on se dissocie de certaines parties de nous, que ce soit, comme je vous dis, que ce soit au niveau du corps ou au niveau des émotions, des blessures, de la personnalité, si on se dissocie d'une partie de nous, on est en train de se rejeter nous-mêmes. Donc on se dissocie de nous-mêmes. Et pour s'intégrer complètement, pour ensuite s'aimer et vraiment progresser au niveau d'un bien-être ou de nos objectifs de vie ou de notre croissance, il faut englober toutes les parties de soi. Ça implique d'aimer son corps et de le valoriser et d'en prendre soin. J'essaie de penser comme ça rapidement à vous nommer des gestes qu'on fait pour prendre soin de notre corps et des gestes qu'on fait pour ne pas en prendre soin. Il y a beaucoup plus de gestes qu'on fait qui ne prennent pas soin de notre corps. Donc, que ce soit d'avoir une dépendance à une substance, que ce soit de la drogue, l'alcool, une nourriture qui n'est pas saine, ou d'abuser de ces substances-là. À ce moment-là, on n'est pas, mais vraiment pas, dans l'amour et dans le respect de notre corps. Pour être bien, en général, ça prend une vigilance au niveau de ce qui passe dans notre mental, les idées qu'on se dit, les idées qu'on alimente surtout, qu'on choisit de croire et de nourrir. Il y a l'intelligence émotionnelle, donc c'est cet équilibre-là, ce perfectionnement-là au niveau des émotions, c'est d'accueillir les émotions sans essayer de les fuir et d'essayer de comprendre ce qui se cache derrière, d'apprendre à décrypter nos émotions. Au niveau spirituel, au niveau de l'esprit, c'est de développer une spiritualité pour se sentir lié aux autres, lié à plus grand que soi, lié à son âme, lié à une force qui nous met dans la foi, qui nous apaise et qui nous rend plus forts. Mais au niveau du corps, c'est aussi d'éviter les excès. Donc, d'aller avec des choses saines. Je me disais que j'avais pas encore parlé d'alimentation. C'est une base pour être bien dans son corps. C'est seulement en étant bien dans toutes ses facettes de soi qu'on va arriver à vraiment être bien en général. Notre corps, c'est super important. Comme je disais, on peut avoir tendance à le banaliser, mais c'est notre vaisseau. C'est lui qui va faire en sorte qu'on va vivre une vie épanouie, qu'on va avoir des moyens physiques de faire ce qu'on veut faire, qu'on va avoir une longévité, qu'on va avoir une santé pour profiter de la vie. Et je pense que de saboter notre corps, c'est souvent inconsciemment, implique de saboter notre vie. Alors, abuser de substances qui sont nocives, c'est définitivement porter atteinte à notre vie. Je le vois comme des petites morts à chaque jour. Et qu'est-ce qui m'a amenée à penser à ça? En fait, je pensais aux troubles alimentaires. Vous savez, je vous ai déjà parlé que j'avais vécu des grosses périodes d'hyperphagie. J'ai encore besoin d'être vigilante. Ça peut m'arriver de sentir tellement d'émotions, de sentir beaucoup de doutes, de me sentir vulnérable et d'avoir tout simplement envie de bifurquer vers l'hyperphagie pour oublier momentanément parce que ça crée de la dopamine, en fait, qui est l'hormone du bonheur. Donc, si on a une insatisfaction, on a une peine, on a trop d'émotions, on se sent bousculé et on a besoin de réconfort, ben on peut aller chercher ce réconfort-là dans la nourriture et vraiment au niveau de nos neurotransmetteurs, ça va nous apporter de la dopamine. Donc, ça va réellement nous apporter un réconfort, mais qui va être très éphémère et qui n'est pas basé sur une solution, en fait. Donc, on passe pas à l'action par rapport au problème, on camoufle le problème. Et ça va revenir, et ça va revenir. Et c'est comme ça qu'on peut développer une habitude addictive aussi. Ce que je voulais dire, en fait, c'est que en réfléchissant sur les troubles alimentaires, j'en suis venue aussi à me dire que c'est un profond irrespect pour le corps. C'est de le voir vraiment comme un déchet, finalement, comme un objet. Puis de croire que si on agit comme ça avec lui, il n'y aura pas de répercussions. Ou de le savoir, mais d'être tellement dans une habitude d'autodestruction. Et toutes les dépendances, comme je dis, là, ça peut être l'alcoolisme, va créer aussi un effet dévastateur sur le corps. La cigarette, la drogue. Donc, on parle pas simplement d'un trouble alimentaire, que ce soit tout simplement de manger trop de sucre. Donc, au niveau de consommer des aliments sains, c'est là qu'on va avoir un impact réellement sur le corps. Mais j'écoutais, en fait, Thierry Swann dans une vidéo sur les aptitudes psychiques, et elle parlait de comment, en fait, avoir son troisième œil ouvert. Et elle disait qu'avoir un corps sain, c'est ce qui va permettre d'être aussi juste plus sain en général, en fait. Avoir un esprit plus sain, avoir une réceptivité plus grande. Parce qu'il y a tout simplement moins de déchets dans le canal. Assainir le corps va assainir l'état d'esprit en général. Et on a tendance à croire que si on aime réellement notre corps, on est narcissique. Ou par exemple les gens qui ont eu un exemple d'un parent qui était constamment en train de juger son propre corps, qui se trouvait pas beau. Bon, j'ai l'exemple d'une mère, mais ça peut être autant les hommes aussi. Ben ça va être dur ensuite pour l'enfant. L'enfant va souvent recopier ça. Ou même un message aux parents. Si vous dites à votre enfant par exemple que s'il mange trop ou qu'il bouge pas assez, il va grossir, c'est la pire chose à lui dire. Au lieu de ça, trouver une façon de l'encourager à aller faire une activité, proposer lui une activité. Mais il faut jamais aller vers la menace de quelque chose pour avoir un résultat. Et encore moins jouer sur la vision ou l'estime d'une personne, la vision de son corps, en pensant que ça va avoir un effet positif. J'ai vécu ça quand j'étais jeune, de me faire dire ça. Et ça a tout simplement alimenté la vision que, d'accord, je suis grosse. Je ne suis pas belle. C'est un jugement. Et ça va tellement entrer dans la tête de l'enfant que par la suite, sa vision de son corps et son lien avec son corps va être brisée. Parce que si on n'aime pas notre corps, si on le juge, on se dissocie de lui, on n'en prend pas soin. Et comme je vous disais, on se dissocie de nous. Donc si on n'aime pas notre corps, on ne s'aime pas. Même si on sait très bien qu'on a une personnalité, qu'on a une âme, qu'on a une intelligence, des aptitudes, une grande richesse, on peut être plein d'amour. Mais si on n'aime pas notre corps, il y a une défectuosité, il y a quelque chose qui cloche, il y a une craque quelque part qui empêche l'amour de rentrer. Pour les gens qui basent beaucoup leur aptitude à être aimé sur leur apparence, ce qui m'est arrivé aussi, j'ai écrit un texte hier que j'ai envie de vous partager. Ce corps n'est pas une raison ou un moyen d'être aimé ou non. Il est simplement qui je suis. Et en prendre soin, c'est m'aimer moi. C'est prendre soin de moi, me dorloter moi, plutôt que de me mettre de côté et même de m'auto-détruire. Cela n'aide en rien. Je suis moi, avec mon corps. Vivre en harmonie et en cohérence avec moi-même, c'est accepter ce corps. Accepter qu'il soit une partie intégrante de moi et qu'il m'appartienne à moi, non pas à personne d'autre. Et que même personne n'a le droit de juger de sa légitimité. Personne n'a le droit de juger de sa beauté. Mon corps est beau parce qu'il est à moi. Il a une valeur inestimable parce qu'il est une extension de moi et que chaque être est sacré. Ce corps est sacré. Et pendant des années, je l'ai négligé. Je suis désolée, mon corps. Je m'excuse. Je te demande pardon. Merci. Je t'aime. Tu as toujours répondu à l'appel. Tu es résilient et solide. Et je t'ai souvent négligé et pris pour acquis. J'ai souvent refusé de t'écouter pour le bénéfice de ma douleur, de ma lourdeur, pour la légitimité de mon sabotage. Merci d'avoir toujours bien encaissé le coup. Je t'aime, mon corps. Je suis désolée. Je te demande pardon. Merci. Je réalise à quel point je ne suis véritablement rien sans toi. C'est toi qui me tiens. Toi qui me permets de respirer à chaque instant, de bouger, de marcher, d'avoir le plaisir de goûter, de manger, de faire l'amour, de prendre quelqu'un dans mes bras. Tout cela n'existerait pas sans toi. Tu es indispensable et je t'ai pris pour acquis parce que tu es là depuis toujours. Tu t'en vas pas. Je t'ai négligé, mon corps. Je suis désolée. Je te demande pardon. Merci. Je t'aime. Merci d'être là. Toujours prêt. Toujours au travail quand je te le demande. Je te dois un grand respect. Tu es mon corps. Fort, beau, vrai et indispensable. Tu es un bijou précieux. Mon plus beau bijou. Mon cadeau le plus cher. Merci mon corps. Je t'aime. Je suis désolée. Je te demande pardon. Tu es parfait et loyal. Je te vois avec des yeux nouveaux. J'ai envie de te flatter, de te dorloter, de te remercier en t'apaisant. Merci. Merci, mon précieux corps. Je suis prête à vivre la réconciliation. Tu es une perle précieuse, mon corps. Je vois toute ta valeur. Merci pour ta dévotion. De tout cœur et sincèrement, je t'aime, mon corps. Je suis désolée, je te demande pardon. Merci infiniment pour ta résilience. Tu es en or, garni d'étincelles de magie et de lumière. Ça peut même être une méditation, je crois, pour quelqu'un qui a une faible estime de soi en lien avec son apparence, pour quelqu'un qui a un trouble alimentaire. Ça peut être une merveilleuse façon, je crois, avec une méditation de ce genre, ou en écrivant des paroles de ce genre et en les lisant tout haut, d'avoir un réel impact sur votre vision de votre corps et de peaufiner toujours ces mots-là. Pour vraiment les posséder, en fait, pour que ça devienne vos mots, pour que cette vision-là, vous l'affirmiez, que vous compreniez que vous êtes rien sans votre corps et que vous n'avez pas envie d'être rien. On a tous un réflexe de survie. Même quand on s'auto-détruit, on a encore le réflexe de survie parce qu'on est encore là. On est encore vivant. Même quand on souffre, on est encore là. On est encore. On veut vivre. On a toujours l'espoir. Et tant qu'on a l'espoir, on veut vivre. Je me demandais, en fait, c'est beau de dire aimer son corps, en prendre soin, bien manger, s'entraîner, aller prendre une marche, se coucher tôt pour avoir des habitudes saines qui vont respecter notre corps, prendre un bain pour s'apaiser. Mais réellement, ce que je vois qui est le plus simple pour prendre réellement contact avec son corps, c'est de le flatter, c'est de le toucher, c'est de toucher chacune de ses parties qu'on oublie parce qu'on ne voit souvent que notre tête ou que les parties qu'on n'aime pas, qu'on voudrait tellement changer ou qu'on rejette, les parties qu'on cache parce qu'on ne veut pas les voir. Vous savez, c'est un peu comme refuser d'embarquer sur une balance parce qu'on a peur du poids qu'on voit. Se déconnecter de notre corps, c'est ça aussi. Nier son poids parce qu'on a peur de ce que c'est. Ou ne pas regarder certaines facettes de notre corps parce qu'on préfère s'imaginer qu'elles ne sont pas là. Il faut intégrer tout ce corps-là pour être bien, pour s'aimer, pour prendre une prise de pouvoir sur sa vie. Parce que tant qu'on rejette des parties de soi, on se voit en victime, ou on souffre, ou on pense pas qu'on mérite le bonheur. Comme je vous dis, vous n'êtes pas obligé de raffoler de votre corps, mais juste de l'accepter. Ça donne tout un souffle de vie. Alors, je vous dirais des choses comme tout simplement prendre le temps de vous masser avec une huile végétale ou avec une crème pour le corps. Prendre le temps de vous exfolier quand vous êtes dans la douche, quand vous êtes dans le bain, mais vraiment prendre le temps et de dire à chacune des parties de votre corps que vous l'aimez. Et prendre le temps de la trouver belle. C'est ce qui va faire en sorte ensuite que si vous avez envie de modifier ces parties-là chez vous, admettons que vous avez envie de perdre du poids. Mais si vous êtes toujours dans la haine de votre corps, c'est très possible que vous n'arriviez jamais à perdre de poids. Parce que vous êtes dans le refus d'accepter, d'aimer, de vous approprier votre corps. Et vous-même, finalement. Alors, si vous souhaitez peut-être modifier certaines parties de votre corps, que ce soit tout simplement en vous tonifiant, c'est pas obligé d'être au niveau de l'apparence, mais on parle juste d'être bien, en fait. Donc, moi, par exemple, j'aime sentir que j'ai des biceps, que j'ai des quadriceps qui fonctionnent, qui sont musclés, tout simplement parce que ça me donne une force, en fait. Mais dans le sens où ça me donne une puissance, pas par rapport aux autres. Je me sens forte, je me sens dans mon corps, je me sens bien incarnée dans mon corps et je sens que je suis prête à affronter les choses. Oui, avoir un corps qu'on aime, être fière de son corps, être fière de ses parties de son corps. Et si, comme je dis, il y a des parties que vous avez envie de travailler, il faut commencer par les aimer comme elles sont. C'est comme vouloir travailler sur soi. Il faut d'abord s'aimer pour ensuite voir c'est où qu'il faut travailler. Parce que si on ne s'aime pas, on est dans la négation. Et tant qu'on est dans la négation, on voit même pas ce qu'on a à travailler parce qu'on rejette. On regarde pas. On veut surtout pas voir en dessous de la roche. Et il faut lever toutes les roches pour pouvoir voir ce qu'on veut faire avec ça après. Et travailler de bon cœur. Pas en lutte contre soi-même. Pas dans la privation. Pas dans une espèce d'énergie du désespoir. Ou, ah, là, c'est la dernière fois que j'essaie, après j'abandonne. Des choses comme ça. Non. C'est de savoir que c'est un travail de tous les jours. C'est vraiment dans votre vision de vous-même, de votre corps, que vous allez pouvoir accueillir votre corps. Oui, juste prendre le temps de regarder toutes vos parties, tout ce qui est votre corps. De prendre le temps de toucher, de voir, comme je vous dis, de flatter. Je pense que c'est le mot parfait. Tout comme quand on a de la peine, quand on sent qu'on a le cœur gros, on peut se faire un câlin à soi-même. Mais on peut faire un câlin à notre corps et lui dire « Je m'excuse, je suis vraiment désolée de tout ce que je t'ai infligé. » Vous pouvez parler à votre corps. On a tellement une grande conscience. Vous savez, votre âme a mis une partie d'elle-même dans votre incarnation, mais elle a aussi une partie d'elle-même qui est en haut. Alors quand vous parlez à votre corps, ça peut être tout simplement votre âme qui dit « Wow, merci de me permettre d'être là, de me permettre de t'habiter et d'avoir cette incarnation, cette occasion de vivre et de créer une belle vie. » Alors, trouvez la façon que vous voulez. Vous pouvez prendre le temps d'adresser un grand merci et un grand « je suis désolée » à votre corps. Vous avez vu dans le texte, j'ai utilisé la formule du Ho'oponopono, qui est « je suis désolée, je te demande pardon, merci, je t'aime ». Je l'ai inversé à quelques occasions, parce que dans la pratique, certains l'inversent aussi. Alors, je suis allée vraiment comme ça coulait. Vous devinez que cet épisode-là s'adressait surtout aux gens qui ont peut-être une faible estime de leur corps, une faible appréciation. Je sais qu'en général, c'est quand même plus des femmes qui écoutent le podcast et peut-être que les femmes souffrent plus de ça, mais ça peut aussi être une erreur de croire que les hommes... C'est une erreur, en fait, de croire que les hommes ne sont pas touchés par ça. Il y a toute une pression dans les archétypes, dans la beauté, les icônes de beauté actuelles. Il y a autant de pression pour les hommes que pour les femmes à représenter une certaine image qui est très désolante. Et oui, beaucoup d'hommes vont avoir de la difficulté à aimer leur corps. Alors je vous répète que votre corps fait autant partie de l'aventure que votre âme dans cette incarnation en 3D, dans cette vie, et que toutes les facettes de nous, on doit en prendre soin, fortement, avec vigilance. Je crois que si vous écoutez cet épisode-ci, ce podcast-ci en général, c'est que vous avez une volonté de développement, de croissance, de curiosité, d'apprentissage, oui. Mais je crois que toute personne qui est portée à vouloir grandir, que ce soit tout simplement pour apprendre, est aussi portée à vouloir faire grandir sa personne. Et grandir en général, ça veut dire faire grandir, oui, ses connaissances, son intelligence, son cœur, son intelligence émotionnelle, son accueil, son amour. Et vouloir faire grandir sa connexion à son âme et aussi vouloir développer son corps ou développer sa relation avec son corps. Comprendre que sans lui, en fait, lui va avoir un impact sur absolument tout. Comme je vous dis, c'est votre vaisseau. Si vous n'êtes pas en santé, vous allez avoir de la misère à réfléchir. Ça va avoir un impact sur votre mental. Si vous n'êtes pas en santé, vous allez avoir un moins grand accueil aux autres. Vous allez moins pouvoir donner d'amour si vous êtes malade. Alors oui, votre corps va vous permettre d'optimiser toutes les facettes de vous-même. J'ai fait cet épisode-là parce que je sentais que moi-même, j'avais encore une grande guérison à faire avec mon corps. Et ce qui a allumé toute cette réflexion-là hier, c'était de réaliser que derrière la pensée consciente qui dit « je veux être belle », derrière cette pensée, il y avait une deuxième pensée en fait qui dit « je ne veux pas être belle ». Et ça a été très long, c'est hier que j'ai réalisé ça, que tous les auto-sabotages venaient du fait que je ne voulais pas avoir à vivre avec le fait d'être belle. Et je pense que c'est ce qui justifie en fait tous les auto-sabotages. C'est que oui, on a une pensée consciente et on croit que c'est ça la pensée. Donc je veux être belle, mais ce qui fait que ça fonctionne pas, c'est qu'il y a une résistance quelque part, c'est que l'opposé existe quelque part en nous. Alors, s'il y a une partie de soi qui dit « je ne veux pas être belle car je n'y crois pas, car je ne crois pas que j'ai cette valeur », c'est surtout ça. Si on ne croit pas qu'on a la valeur de quelque chose, on ne peut pas vouloir cette chose, sincèrement. On a tendance à croire que toutes les femmes veulent être belles, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui se cache derrière ça. Une autre pensée qu'il faut aller défaire, en fait. Donc, on est encore dans le shadow work. Je suis très heureuse s'il y en a parmi vous qui écoutent le podcast et qui n'ont jamais eu à vivre avec cette pression-là, que plusieurs femmes ont dès leur âge primaire, elles sont toutes petites, les petites filles, elles veulent tellement être belles. Peut-être qu'elles se font dire qu'elles sont belles et « ah, d'accord, peut-être », mais en même temps, elles veulent tellement être belles que peut-être même elles n'entendent même pas ça. Peut-être qu'elles se font dire qu'elles sont pas belles par leurs amis. Moi, à l'école, je me faisais pas dire que j'étais belle, mais pas du tout. Je me faisais dire que j'étais grosse. Et quand j'étais au primaire, je peux vous confirmer que je n'étais pas grosse. Mais j'étais plus grande. J'avais, en fait, en cinquième année du primaire, donc à 10 ans, j'avais la taille que j'ai présentement, peut-être un pouce de moins. Les enfants me voyaient comme grosse, mais j'étais tout simplement plus grande, donc mon ossature était plus développée. Mais je me suis tellement fait dire ça que quand je suis rentrée à l'école secondaire, quand j'ai eu 13 ans environ, j'avais tellement assimilé l'idée que j'étais grosse que j'ai commencé à prendre beaucoup de poids. Parce que j'étais convaincue de toute façon que moi, j'étais vouée à être grosse, à avoir un surplus de poids, à ne pas aimer mon corps, à ne pas être perçue comme étant belle. Alors, ce qu'on se fait dire aussi, comme je vous dis, les parents, quand vous parlez à vos enfants, ça va avoir un gros impact. Parce que les pensées qu'on entend et les pensées qu'on accepte comme étant réelles forgent ensuite notre réalité. Oui, j'ai peut-être fait des pauvres choix alimentaires ou des pauvres choix d'activité physique. Parce que de toute façon, moi, j'étais grosse. Il n'y avait rien à faire. Je le sais, en coaching, je commence à faire officiellement du coaching. En fait, là, je suis en période test avec quelques personnes, quand même, un bon petit nombre. Ça commence la semaine prochaine. Et bientôt, je vais offrir réellement, je vous lance pour la première fois là, je vais offrir du coaching dans un mois ou deux maximum, ça va commencer. Ça peut se faire en ligne, par Skype ou par FaceTime. Je parlais justement avec une femme que je veux voir en coaching et elle me disait que pour elle, ça ne fonctionnait pas. Pour elle, c'est certain qu'elle ne pouvait pas perdre de poids. Que pour elle, mieux manger, ça ne fonctionne pas. Et tout ça, ça vient tout simplement de vos croyances. C'est pas la réalité. Mais peut-être que vous vous l'êtes fait dire. Moi, je me suis fait dire quand j'étais jeune. Ah, toi, tu manges toujours mal. Ah, toi, tu manges même trop de biscuits. Tu vas venir avec des grosses fesses. Tu vas avoir une culotte de cheval. Ah, toi, de toute façon, tu sais pas cuisiner. Tu vas toujours mal manger. Alors, ce qu'on s'est fait dire et ce qu'on a commencé à se dire à soi est devenu tellement une réalité qu'on ne voit plus à l'extérieur de ça. Il suffit juste de voir, de s'élever un peu pour voir cette réalité-là, pour prendre conscience que des options de réalité, nous en avons tous plusieurs. Et c'est tout un soulagement. C'est dur parce que on a tendance à vouloir rester dans cette zone-là, parce que c'est la sécurité, c'est ce qu'on connaît. C'est facile de croire la même chose tout le temps, mais c'est aussi très douloureux. On dit que c'est quand la douleur prend le dessus sur le confort qu'on est prêt à changer. Alors bien sûr, c'est certain que j'ai une de mes spécialisations au niveau du coaching va être au niveau des troubles alimentaires et de l'anxiété aussi. Ça peut être sur n'importe quoi en général aussi. Vous savez, après avoir pensé que j'étais si faible d'avoir galéré pendant des années avec un trouble alimentaire, et après avoir eu profondément honte, j'ai fini par comprendre que j'avais en moi un excellent outil pour aider d'autres personnes dans la même situation. Cet outil-là, ça s'appelle le vécu. Le fait d'avoir vécu ça. Et ça me fait penser quand on veut savoir comment monter le mont Everest, comment accomplir un exploit physique, ou quand on veut savoir comment cuisiner, on va voir un professionnel de l'alpinisme, ou on va voir un professionnel du plein air qui va nous outiller, qui va nous dire qu'est-ce qu'il utilise, c'est quoi ses techniques, ou on va voir un cuisinier. Je pense que c'est la connaissance du terrain, c'est l'expérience réelle et profonde qui fait en sorte qu'on peut comprendre et aider pleinement quelqu'un dans une situation semblable à ce qu'on a vécu. Et quand on veut savoir comment se libérer d'un trouble alimentaire, on va voir un psychologue ou un nutritionniste. Mais les tourments traversés, dont souvent on a tellement honte qu'on n'ose même pas en parler, le professionnel de la santé mentale en général, il les a pas vus, il les connaît pas. Même s'il peut les avoir étudiés, c'est tellement pas pareil. Quand on a arpenté le sentier, on le sait. Mais ceux qui l'ont pas arpenté le connaissent pas. Et c'est ce qui fait en sorte que, en général, les thérapies de groupe ont plus de succès que les thérapies de un à un. J'ai pas de statistiques pour vous, mais on sait par exemple que pour les alcooliques anonymes, ça fonctionne très bien parce qu'on raisonne avec des gens qui nous comprennent, puis il y a des gens là-dedans qui ont réussi à s'en sortir. Alors je crois sincèrement que c'est l'expérience de terrain qui fait toute une différence. Quand on a marché le sentier, quand on a vu les zones d'ombre, quand on connaît les zones de pure désolation. Alors à ce moment-là, on sait profondément ce que l'autre vit et ce dont il a besoin surtout. Et on enlève un filtre. On enlève justement cette honte-là. Quand l'autre sait exactement ce qui a pu vous passer par la tête. Il n'y en a plus de honte. C'est la vérité, tout simplement. C'est juste une soif de vérité. Et c'est un grand respect de cette vérité-là que la personne vit. Vous savez, je vous ai déjà parlé, je crois que c'est dans l'épisode sur les réalités parallèles. Je pense que c'est l'épisode 9. Quand deux personnes ont deux réalités différentes, donc si une personne est dans une souffrance profonde et que l'autre personne n'est pas capable de descendre à son niveau, il ne peut pas y avoir de compréhension. Oui, je pense qu'avoir vécu des choses similaires, avoir marché des chemins similaires fait en sorte que déjà on part sur une base de compréhension. Et ayant trouvé des outils pour s'en sortir, la personne qui s'en est sortie peut vraiment aider l'autre. Je pense qu'être compris, être écouté, raisonner avec quelqu'un, c'est déjà un grand chemin de fait dans la guérison. Parce que souvent, on a juste besoin d'être compris. Et dire la vérité. Et dire la vérité à quelqu'un qui ne comprendra pas ou qui va juger, ça nous terrifie. Mais dire la vérité à quelqu'un qui sait c'est quoi, ça soulage énormément. Et ne pas avoir peur de la vérité, c'est essentiel pour guérir. Pour faire du shadow work, justement. Il faut nommer la vérité pour après ça faire « Ouf, je l'ai dit! Ok. Maintenant, je peux regarder la solution. » Donc, c'était mon passage sur l'amour du corps et les troubles alimentaires. Alors, avant de terminer, je vous avais dit aussi en début d'épisode que j'allais vous donner quelques nouvelles de ce qui se passe pour moi. Donc, en fin de semaine qui s'en vient, je m'en vais passer la fin de semaine dans un salon spirituel à Rivière-du-Loup qui s'appelle le Salon de la Colombe Blanche. Et c'est un salon qui se promène un petit peu partout au Québec. Donc, c'est sûr que je vais rencontrer des gens que je connais déjà, que je connais du salon Les Chemins de vie qui se passe à Amqui. Donc, je vous ai parlé, je vous ai partagé quelques anecdotes, quelques expériences en lien avec ce salon-là au fil des épisodes. Je vais aussi rencontrer de nouvelles personnes, de nouveaux praticiens, de nouvelles personnes qui travaillent dans le domaine de la spiritualité et des soins énergétiques et tout ça. Alors, Bien sûr, je vais pouvoir vous revenir là-dessus au prochain épisode. Alors, je vais vous donner des nouvelles, c'est certain. Ceux qui me suivent sur Instagram, sur Facebook, je vais probablement vous mettre quelques photos de ma fin de semaine. Donc, vous allez pouvoir aussi suivre ça un petit peu. Et je vais aussi, comme je vous ai dit, je commence le coaching la semaine prochaine en test avec des gens. Et dans un mois ou deux, ce sera accessible comme service, en fait, que je vais offrir à mes clients. Aussi, une dernière chose dont je voulais vous parler, en fait, je travaille encore sur la Lune abondante, qui va être un programme en ligne pour travailler à faire des manifestations et de la pleine conscience avec la Lune. Donc, pour travailler à croître et à vous approcher de la vie dont vous rêvez. Et en dernier lieu aussi, je travaille sur un documentaire. Je commence à travailler sur le scénario, en fait, d'un documentaire sur la pratique rituelle. Donc, ça aussi, c'est quelque chose dont vous allez m'entendre parler de plus en plus. Donc, comment est-ce qu'on peut utiliser la pratique rituelle encore de nos jours et qu'est-ce que ça a de si positif à nous apporter? Alors, c'est tout ce qui se passe en ce moment dans ma vie. Plein de belles choses, plein de beaux projets que vous allez voir émerger bientôt. La lune abondante, j'aimerais bien que ça sorte. Je me dis à l'automne maximum, prendre le temps de faire vraiment un beau programme et de le tester avec un petit groupe avant, de recevoir des commentaires pour le peaufiner au besoin. Et ensuite, vraiment lancer ça. Ça va être un programme qui va être accessible, auquel vous allez pouvoir participer, tout comme vous pouvez participer à mon service de coaching qui va commencer bientôt aussi. Alors, je vous remercie toujours pour votre écoute et votre intérêt. Je suis heureuse d'avoir fait cet épisode-ci aujourd'hui. C'était un sujet qui était très important pour moi. J'espère que ça vous aura servi réellement, si c'est quelque chose qui vous a concerné. On se retrouve très bientôt. En attendant, on peut toujours se communiquer ensemble sur la page Facebook de La Chamane et sur Instagram. Alors, je vous invite à me suivre sur une ou deux de ces plateformes à votre goût et à poursuivre la discussion aussi. Vous êtes toujours les bienvenus pour communiquer avec moi, ça me fait plaisir. Alors, on se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Je vous laisse avec une pièce de mon bon ami Pierre-Olivier Caouette qui fêtait son anniversaire cette semaine. Alors, j'ai voulu souligner ça en faisant jouer une de ses chansons qui s'appelle « Emily » de l'album « Usually the Same Landscape ». Et en fait, son nom de projet musical, son nom d'artiste, c'est Eyelid, donc E-Y-E-L-I-D. Vous pouvez le trouver sur Bandcamp. Je vais mettre le lien en note à cet épisode. Alors, au revoir.